partage de ce matin, je vous propose une lecture dans le prophète Ézéchiel. Vous savez, je suis qu'on va rarement, là. Je ne vais pas dire qu'on n'y va jamais, mais rarement. Ézéchiel 22. Je vous propose donc Ézéchiel 22, verset 23. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Fils de l'homme, dit à Jérusalem, tu es une terre qui n'est pas purifiée, qui n'est pas arrosée de pluie au jour de la colère. Ce prophète conspire dans son sein comme des lions rugissants qui déchirent leur proie. Il dévore les âmes, il s'empare des richesses et des choses précieuses, il multiplie les veuves au milieu d'elles. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne se font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats. Je suis profané au milieu d'eux. Ces chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent leur sang, perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Et ces prophètes ont pour eux des envies de plâtre, de vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, et l'Éternel ne leur a point parlé. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Seigneur, encore une fois, nous voulons nous mettre devant toi, devant ce texte, peut-être un peu rébarbatif, mais Seigneur, nous voulons penser que toi aussi, tu as souffert. Seigneur, merci parce que nous pouvons encore lire ce texte et le partager. Seigneur, qu'il soit pour nous une nourriture saine, parce que c'est ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Dieu cherche un homme. Souvenez, en 1977, Patrick Juvet chantait « Où sont les femmes ?» Avec leurs gestes pleins de charme, qui ont des rires pleins de larmes, « Où sont les femmes ?» Chose étonnante, quand même, pour un homme qui aimait les hommes. En 1981, Michel Sardou chantait « Être une femme ». Cette chanson évoquait les femmes des années 80. Et je cite Wikipédia, le chanteur porte un regard amusé sur l'évolution de la condition féminine. Il décrit les femmes dans une succession de postures de pouvoir assimilées à des fonctions traditionnellement masculines, général d'infanterie, d'aviation, PDG, président de la République, etc. Et en mai de l'année 2015, pour ceux qui s'en souviennent, dans le journal protestant Mosaïque, la date du fameux synode, le journal protestant Mosaïque, en page 3, nous retrouvons aussi la question « Mais où sont les femmes ?» Et cette fois, c'est une femme qui s'intéresse à la place des femmes dans le corps pastoral de l'Église protestante. Où sont les femmes pasteurs ? Aujourd'hui, puis question d'éviter le féminisme, hein, les femmes sont partout, de chauffeurs de bus à bourgmestre. Regardez n'importe quel film, il y a toujours des femmes. En passant par les commissaires de police, ministres ou députés, elle occupe des places qu'il y a quelques années étaient strictement réservées aux hommes. Mais il y a environ 2600 ans, environ, par l'intermédiaire du prophète Ézéchiel, Dieu cherchait un homme. Dieu cherchait un homme. Oh, nous connaissons évidemment la condition féminine juive de l'époque. Dieu n'est pas misogyne. Il a utilisé bien souvent des femmes à son service, des prophétesses, des reines, sans oublier évidemment Marie, qui donnera naissance à Jésus. Mais dans notre récit, Dieu cherche un homme. Mais où est cet homme? Évidemment, sans dénigrer le ministère féminin et sans vouloir être moi-même misogyne, nous pourrions nous aussi nous poser la question « Où sont les hommes ?» Au stade, avec une bière. Désolé. Non, il y avait aussi des femmes. et des femmes qui commentent les matchs aussi. Donc, on voit bien qu'il y a quand même l'homme et la femme. Où sont les hommes qui se tiennent à la brèche? Et pour ne pas polémiquer, où sont les hommes et les femmes qui se tiennent à la brèche? Parce que c'est cela que Dieu a besoin. Des hommes et des femmes qui sont sur le qui-vive, qui sont des sentinelles, qui sont prêtes à tout. Prêtes au combat spirituel. Parce que c'est ça que Dieu cherche. Où sont les hommes et les femmes? Et vous avez certainement remarqué, enfin moi je l'ai remarqué, dans la lecture que Daniel a faite, dans Actes 1,14, il est écrit, ils étaient réunis ensemble avec les femmes. Elles étaient là. Où sont les femmes et les hommes qui se tiennent à la brèche? Mais le premier problème, d'abord trouver un homme ou trouver une femme, mais le premier problème que je voudrais aborder, c'est la brèche. Qu'est-ce qu'une brèche? Et je vais scinder mon partage en trois questions. Qu'est-ce qu'une brèche? Quelle est-elle, cette brèche? Et quelle est la solution de Dieu? D'abord, qu'est-ce qu'une brèche? Dictionnaire, évidemment, hein. Parce que brèche, je ne sais pas si on parle encore maintenant, j'ai fait une brèche. C'est une ouverture dans un mur, dans une muraille. Voilà, ça vous savez quand même avant. Et puis la définition biblique, et là je la vois dans 2 Chroniques, versets 25, 22 à 24. 2 Chroniques, 25, 22, 24. Judas fut battu par Israël, et chacun s'enfuit dans sa tente. Josias, roi d'Israël, prit à Beth-Shemesh Amatsia, roi de Juda, fils de Joas, fils de Joachaz. Il l'emmena à Jérusalem, et il fit une brèche de 400 coudées dans la muraille de Jérusalem, depuis la porte d'Éphraïm jusqu'à la porte de l'angle. Il prit tout l'or et l'argent et tous les vases qui se trouvaient dans la maison de Dieu chez Obed-Edom et ses trésors de la maison du roi. Il prit aussi des otages et il retourna à Samarie. On n'a rien inventé, hein. Il fait une brèche. Une brèche, donc, est un trou béant dans une muraille. Et ça, on l'a bien compris. Et c'est le texte qui nous dit qu'elle est énorme. 400 coudées, bon, pour ceux qui ont une ancienne Bible, la coudée, c'est ça. C'est plus ou moins 50 cm. Donc 400 coudées, ça fait 200 mètres. C'est quand même énorme. Et la bataille que nous rapporte le deuxième livre des Chroniques est une guerre entre frères. Après la mort du roi Salomon, le peuple d'Israël s'est séparé en deux. Le royaume d'Israël au nord avec Samarie comme capitale, le royaume de Juda au sud, avec Jérusalem. Je vous ai déjà rappelé tout ça, je vous rappelle encore une fois. Et chacun avait son dirigeant, son propre roi, c'est pour ça qu'on parle de la Judée, des Judéens, de Juda et d'Israël. Et quelque temps après cet événement, Samarie tombera aux mains des Assyriens, et le royaume du nord aussi disparaîtra. Plus personne. Pour ce qui est du sud, le roi Ézéchias, lui, il va reconstruire la muraille. Mais là aussi, quelques dizaines d'années plus tard, la chute de Jérusalem sous Nebuchadnezzar, qui va déporter tout le monde à Babylone, et on trouve le fameux livre de Daniel qui est écrit à Babylone, et dont Ézéchiel aussi parle. Et le retour d'exil se fera sous Esdras-Néhémie, vous pouvez aller voir, aller lire Esdras-Néhémie, très intéressant. Alors vous allez me dire, pourquoi faire un cours d'histoire? C'est toujours ton histoire, moi j'aime bien. Bon. Mais d'abord pour nous montrer que dans toute la Bible, tout est lié. C'est un tout. On ne retire rien de la Bible. Et nous pouvons ne pas retirer des versets en disant, bon, ça ne sert à rien, Ézéchiel, c'est trop compliqué, je ne lis pas. Deuxièmement, les textes nous montrent que la muraille de Jérusalem, et encore maintenant, a souffert pendant des années des attaques des ennemis. Et troisièmement, point qui n'est pas à négliger, les dégâts sont parfois faits par nos propres frères. Ça, c'est un peu plus dur. Qui ne pensaient pas la même chose. Pourtant, c'était le même peuple. Mais je continue un peu mon cours d'histoire, si ça ne vous dérange pas, au tableau. En finalité, le temple subira les mêmes traitements que la muraille. Il sera détruit par Nebuchadnezzar en 587 avant Jésus-Christ et reconstruit sous l'égide de Zorobabel. Allez voir Esdras et Néhémie. Mais plus petit, les enfants d'Israël furent encouragés et il y aura une restauration. Mais en 167, interro la semaine prochaine, avant Jésus-Christ, un roi grec fait ériger une statue de Jupiter dans le temple. Scandale! Une statue de Jupiter dans le temple de Jérusalem. Et alors c'est la révolte des Juifs qui va mettre les Grecs dehors et purifier le temple jusqu'en 63 avant Jésus-Christ, où c'est l'Empire romain qui va dominer. Et c'est Hérode le Grand qui fera aussi des agencements, parce qu'on parle du temple d'Hérode. Il fera de nouveaux agencements pour plaire au peuple, et c'est son fils, Hérode le Grand, c'est son fils qui tuera, qui crucifiera Jésus-Christ. En l'an 70, terminé, c'est la destruction totale du temple et la diaspora juive. Aujourd'hui, comme on le sait, Jérusalem est partagée entre plusieurs religions, soi-disant les religions monothéistes. Mais pourquoi, vous allez me dire, nous intéresser à autant d'histoire et du temple de Jérusalem? Parce que les dégâts qu'ont subi la muraille ont entraîné des dégâts au temple. Relisons deux chroniques, 22-23, le roi d'Israël, Joas, prit Beth-Shemet, Amatsia, roi de Juda, fils de Joas, fils de Joacaz, il l'emmena à Jérusalem, et il fit une brèche de 400 coudées dans la muraille de Jérusalem, depuis la porte d'Éphraïm jusqu'à la porte de l'An. Jusque-là, la brèche est dans la muraille. Il prit tout l'or et l'argent et tous les vases qui se trouvaient dans la maison de Dieu, dans le temple, et les trésors de la maison du roi, il prit aussi des otages, retourna à Samarie. À cette époque, le trou dans la muraille, la brèche faite par l'ennemi, et c'est pour avoir accès au trésor, à l'argent, au trésor de Dieu, pour voler Dieu, pour voler le trésor de Dieu. C'est-à-dire, pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'une brèche? D'abord, dans nos murailles. Vous allez me dire, quel temple? Daniel l'a rappelé tantôt. Il n'y a plus, le temple de Jérusalem n'est plus là. Ce n'est pas ici qu'on va faire une brèche, ce n'est pas dans notre temple. Notre temple, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est là qu'il va avoir la brèche. Dans nos murailles, c'est ce qui nous entoure, c'est ce qui nous met en sécurité. Nous, pour certains, c'est l'argent. La santé, la famille, le travail, tout ça, ça mène en sécurité humainement, quoi. Et pour nous chrétiens, c'est notre foi. Ça, c'est notre muraille. Notre Dieu, notre Bible, notre Sauveur. Et dans cela, il y a parfois des brèches faites par l'ennemi, mais aussi par nos frères. Nous sommes déstabilisés dans ce que nous croyons. Bon, enfin, qu'est-ce que tu crois là? Non, c'est pas ça. La parole de Dieu dit pas ça. Elle dit autre chose. Non, tu t'as pas bien lu. Moi, je vois pas la même chose. On est secoué par une décision de synode. Tout le monde, il est bon. On marie tout le monde. Nous sommes troublés par ceux qui s'appellent les scientifiques de la Bible. Quand j'étais à la faculté, il y avait des scientifiques de la Bible. Et on est parfois écœurés par ceux qui se disent nos frères et qui mettent en doute la divinité de Christ. Nos brèches sont parfois énormes, mais quand elles donnent accès à notre temple, à notre trésor, à ce que Dieu nous a confié, il ne faut pas les laisser aller. Elles doivent être réparées. Il faut se rendre compte de notre état parfois. Alors, quelle est cette brèche? Et dans le texte que nous avons lu, que dénonce Ézéchiel, qui a fait cette brèche? Et là, je vais vous lire en français courant. Ézéchiel 22, 24. La parole de Dieu me fut adressée, fils d'Adam, dit aux Israélites, que leur terre ressemble à une terre qui ne reçoit point de pluie. Elle dépérira sous l'effet de ma colère comme un sol sans eau. Tels des lions rugissants qui s'acharnent sur leur proie, ces prophètes y complotent. Ils commettent des meurtres. Ils s'emparent de l'argent et des biens d'autrui et ils réduisent de nombreuses femmes au veuvage. Leurs prêtres profanent mes enseignements et ne respectent pas ce qui m'est réservé. Ils confondent ce qui est sacré et ce qui ne l'est pas. Ils n'enseignent pas aux gens la distinction entre ce qui est pur et impur, et ils ignorent volontairement le jour du sabbat. Au milieu d'eux, je suis exposé au mépris. C'est Dieu qui parle. Les chefs du peuple sont sanguinaires, comme des loups qui s'acharnent sur leur proie. Ils détruisent des vies pour s'enrichir. Leurs prophètes masquent tout cela sous une couche de plâtre. Ils racontent des visions imaginaires et prédisent des mensonges. Ils prétendent transmettre un message de ma part, alors que moi, le Seigneur, je ne leur ai pas parlé. Partout dans les pays, on pratique l'oppression, on commet des vols, on maltraite les pauvres et les défavorisés, on exploite les immigrés sans respecter leurs droits. J'ai cherché quelqu'un qui serait prêt à construire un mur d'enceinte ou prêt à se tenir sur la brèche pour défendre la muraille, le pays et l'empêcher de le détruire. Mais je n'ai trouvé personne. Dis à Jérusalem, ses prophètes, ses prêtres, ses sacrificateurs, ses chefs, le peuple du pays, ce sont eux-mêmes qui ont fait la brèche. Tous. L'attaque de la muraille se fait de l'intérieur, donnant ainsi accès à n'importe qui, ouvrant une porte grande aux voleurs, aux loups pour dévorer les brebis. Les prophètes déchirent leur proie, dévorent les âmes, les prêtres violent ma loi, profanent mes sanctuaires. Les chefs répandent le sang, perdent les armes. C'est dur quand même. Pourquoi ? Pour les richesses, pour l'argent, pour assouvir leur cupidité, pour leur propre gloire. C'est moi. Les conséquences sont terribles. Dieu est profané. C'est pas le temple qui est profané. C'est pas l'or, l'argent, non. C'est Dieu. Dieu lui-même est profané et le peuple est livré à lui-même. La brèche que dénonce Ézéchiel n'est pas dans la muraille de la ville, mais dans le cœur de l'institution sacerdotale, dans l'intérieur du temple, comme si on avait remis, ou mis déjà, la statue de Jupiter à la place de la présence de Dieu. Verset 26, ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane, ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et pur. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui ne l'est pas, entre ce qui est saint et ce qui ne l'est pas. On mélange tout. On ne fait plus connaître la différence. Tout comme le peuple de Jérusalem, de tout temps, l'Église a été attaquée, a subi des attaques, mais elle s'est relevée, restaurée, réformée, je dirais, pour combler de nouveau des brèches. Ah oui, ça a été attaqué. Mais on s'est relevé. L'Église est toujours là pour combler des brèches et de nouveau se reconsacrer, se purifier, se tendre pour tendre à être cette épouse digne du nom du Christ, de Jésus-Christ. Mais pour arriver, Dieu a trouvé des hommes, des Jean Calvin, des Luther, des Guy Debray. Pour ne citer que, de tout temps, Dieu a trouvé des hommes et des femmes qui se sont tenus à la brèche. Aujourd'hui, on le sait, l'Église est dans un tourment. L'Église protestante aussi. Et ça a été causé par pas mal, ça a causé pas mal de difficultés et de dégâts dans les communautés protestantes. C'est qu'à l'époque, en 2015, ça a explosé. Certains ont démissionné. Une brèche a été faite de l'intérieur qui entraîne l'Église protestante belge dans une guerre intestine, une guerre parfois fratricide. Notre pays était déjà fragilisé, les dirigeants ont retiré Dieu des écoles, de nos institutions, le christianisme le plus à priorité maintenant, l'humanisme c'est bon. On parle de dialogue interculturel, interreligieux. Il faut. On s'est passé pour une secte. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Nous irons tous au paradis, disait une chanson. Et au nom de la liberté, de l'amour, tout est permis. Et dans l'Église, au nom de la grâce, tout est admis. Alors, quelle est la solution de Dieu ? Notre verset 30, évidemment. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient dans la brèche. Devant moi, faveur du pays, afin que je ne détruise pas, mais je n'en trouve pas. La solution de Dieu, elle passe par l'homme. Par l'homme qui construit au lieu de détruire et qui se tient, malgré tout, à la brèche. Devant Dieu, pour intercéder, le pays. Mais la conclusion de Dieu, il n'en trouve pas. Imaginons quand même la brèche, un trou de 200 mètres. Dieu cherche un homme pour le garder, pour surveiller, pour être là. Il faudrait affamer un tel pour faire la course, 200 mètres, ou au joueur de foot peut-être. Mais de là, il faut aller là-bas, 200 mètres plus loin. Un stade de foot fait 100 mètres. Deux fois un stade de foot. Il faudrait courir à gauche, à droite, sans se fatiguer. Parce que un homme ou une femme. Non, en fait, ce n'est pas ça que Dieu demande. Dieu ne demande pas de courir. Dieu ne demande pas d'être fatigué. Il ne demande pas de s'épuiser. Simplement se tenir en sa présence. En sa présence et intercéder en faveur du pays. Intercéder. Mais il demande aussi pour construire un mur, réparer les trous, refermer la brèche. Il faut parler, il faut intervenir. Je me souviens, juste pratiquement il y a quelques années, j'avais décidé de faire les soudainements devant la maison, et brique par brique. Et c'est fatigant, hein. Je mettais plus ou moins une vingtaine de briques par jour, parce que pas maçon. Alors mon beau-frère est arrivé, lui qui est maçon, il dit oh, c'est pas mal, quoi, hein. 20 briques par jour, nous on fait ça en une heure. Bon, allez, on n'est pas des surrendes non plus, hein. Il a avoué que mon mur était bien. Oui, Dieu cherche un homme qui souffre peut-être, qui met du temps peut-être, oui, mais Dieu cherche un homme. Oh, c'était pas la première fois qu'Ézéchiel le disait, enfin, que Dieu disait, pardon, excusez-moi. Le prophète Jérémie l'avait déjà fait, Jérémie 5, 1. Parcourez les rues de Jérusalem, regardez, informez-vous, cherchez dans les places s'il s'y trouve un homme, s'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attaque à la vérité, qui s'attache à la vérité, pardon, et je pardonne à Jérusalem. Dans Ésaïe 6, 8, j'ai entendu la voix du Seigneur me disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» pardon. Le psalmiste disait en parlant du peuple dans le désert, psaume 106, qu'ils oublièrent Dieu leur sauveur qui avait fait tant de choses en Égypte, des miracles dans le pays de Cam, des prodiges dans la mer Rouge, et il parla de les exterminer. Mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de le détruire. Déjà Moïse était là. Souvenons-nous aussi d'Abraham et de l'intercession qu'il a eue en faveur de Sodome et Gomorre. Dieu cherche des hommes et des femmes qui pratiquent la justice et qui s'attachent à la vérité. Aujourd'hui, on a parfois l'impression que tout est fini. On dit, oh, c'est plus la peine. De toute façon, il va bientôt revenir. Et que le péché s'est tellement allé loin qu'il n'y a plus de solution. Et que tout a été abandonné, c'est pas nouveau. Et je vous propose de lire dans 2 Chroniques 36, 14 et 16, 2 Chroniques 36, 14 et 16, « Tous les chefs et les sacrificateurs et le peuple multiplièrent aussi les transgressions. » Pas nouveau, hein. Ézéchiel non plus, hein. « Selon toutes les abominations des nations. » Selon toutes les abominations des nations. Donc les prêtres et le peuple regardaient les autres nations et faisaient la même chose. Et ils profanèrent la maison de l'Éternel, encore une fois, qui était sanctifiée à Jérusalem. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonne heure à ses envoyés la mission de les avertir. Les avertir. Car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Verset 16. Mais ils se moquaient des envoyés de Dieu. Ils méprisèrent ses paroles et ils se raillèrent de ses prophètes. Jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède, j'ai déjà dit, sans remède, sans remède. Quelle tristesse. On dirait que Dieu n'a plus de remède, c'est fini. Dieu cherche un homme, il n'en trouve pas. Et sa colère est sans remède. Mais Dieu est bon. Nous verrons plus loin, il suscitera un réveil par le roi Cyrus, le roi de Perse, un roi étranger, pour que son peuple retourne à Jérusalem et reconstruise la muraille, reconstruise le temple. C'est la période dont j'ai déjà parlé, Esdras, Néhémie, allez voir. C'est quand même Dieu qui a toujours le dernier mot. Mais il a fait mieux. Pour nous, aujourd'hui, Dieu a suscité un homme. Oh, c'est pas un étranger qu'il a abandonné sur la croix. C'est son propre fils. La solution ultime pour le péché, Dieu a trouvé un homme, mais son fils. Son fils, un innocent, qui a payé à notre place. Il a été jusque-là, pour nous. Alors aujourd'hui, il cherche encore des hommes et des femmes qui intercèdent. Et pendant qu'il était sur terre, Jésus, lui aussi, cherchait des hommes et des femmes pour propager la bonne nouvelle, à l'effet de toutes les nations, des disciples, baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et les disciples, eux aussi, ont cherché des hommes. Dans Actes 6, 3, « Pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, que nous chargerons de l'emploi. » Dieu ne cherche pas des super-héros, comme j'ai déjà dit. Il ne cherche pas des hommes qui courent, des intercesseurs. De la vie de tous les hommes et de toutes les femmes qu'il a choisies, ce n'est pas des super, c'est des pécheurs. Il a fait écrire le Pentateuque par Moïse, qui était quand même un assassin. Saul. Dieu cherche des hommes et des femmes, pas des super-héros. Le seul super-héros qu'a été, c'est Jésus-Christ. Alors en conclusion, Dieu cherche encore aujourd'hui des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche en faveur du pays, en faveur de l'Église. Des hommes et des femmes qui pratiquent la justice. Des hommes et des femmes qui aiment la vérité. Des hommes et des femmes qui soient remplis de sagesse. Des hommes et des femmes qui soient remplis du Saint-Esprit. Des hommes et des femmes de qui nous rendent un bon témoignage. Alors, quelle que soit la brèche, qu'elle ait été faite de l'extérieur ou de l'intérieur, qu'elle soit immense ou qu'elle soit sans remède, Dieu cherche encore aujourd'hui des hommes et des femmes qui se tiennent debout devant lui. Alors puissions-nous répondre comme Josué devant le peuple, Josué 24, 15, « Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. » Vous connaissez la suite. « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Et comme j'ai débuté cette prédication par les paroles d'une chanson, je vais la terminer aussi par les paroles d'une chanson, mais que je dirai de Philippe de Courroux. « Tant qu'il y aura des hommes assez fous pour aimer, tant qu'il y aura des femmes à genoux pour prier, tant qu'il y aura des vies, des cœurs ouverts pour donner, je saurai tuer mes envies de tout laisser tomber. Tant qu'il y aura des hommes et des femmes à la brèche, on ne peut pas baisser les bras. Que le Seigneur soit béni. Amen. Seigneur, encore une fois, nous voulons nous mettre devant toi. Si même nous disons, nous voici, nous sommes parfois démunis, nous sommes parfois peut-être fatigués, peut-être troublés par tout ce qui nous entoure, mais nous voulons croire que toi, tu as le dernier mot. Toi, tu es encore là. Toi, tu veux que nous avancions. Toi, tu veux que nous parlions, que nous témoignions. Oh Seigneur, renouvelle nos forces pour que nous puissions être des sentinelles et proclamer que tu es, que ton Fils a été jusqu'au bout pour nous, qu'il est le Sauveur du monde, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Mm-hmm.